La première, 6h-9h le samedi, Mathieu Truffert.
Bertrand Cardis, bonjour.
Bonjour.
Il y a un peu plus de 20 ans, en 2003, l'équipe d'Alinghi gagnait la régate la plus prestigieuse du monde en Nouvelle-Zélande, la Coupe de l'América. Le bateau victorieux, c'est vous qui l'aviez construit avec vos petites mains et aussi avec l'aide de toute une équipe, hein, le chantier Décision SA. Cet automne, 20 ans plus tard, donc Alinghi retrouve la Coupe de l'América. On va en parler. Les régates sont prévues à Barcelone à partir du mois d'août. Mais question toute simple, pour commencer, tout le monde se demande, notamment ceux qui ont un tout petit peu perdu le fil de cette aventure depuis que les Suisses n'y sont pas, Alinghi peut-il de nouveau gagner ?
Mais je crois qu'Alinghi se donne les chances d'arriver à la victoire, veut se rendre capable de gagner, reprend tous les éléments pour être performant, que ce soit au niveau du design, au niveau de l'équipe qui dirige, au niveau de l'équipe qui navigue aussi. Donc, moi, je pense que Alinghi remet beaucoup d'atouts de son côté, oui, tout à fait.
Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ceux qui ont perdu de vue la Coupe de l'América depuis 15 ans vont être un peu surpris de ce qu'ils vont voir cet automne. On va en parler. Bon, il y a un des trucs qui a changé, c'est que cette année, l'équipage est 100% suisse. Ils sont jeunes, ils sont relativement inexpérimentés dans la Coupe de l'América. Ils vont se retrouver en face de vieux briscards français, néo-zélandais, anglais, américains, italiens. Ils ont vraiment une chance.
Oui, mais alors, je pense qu'il y a le paradigme a complètement changé. Maintenant, les bateaux, ce sont des bateaux qui volent. Ce sont des bateaux qui volent, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui sont portés par des ailes qui portent le bateau dans l'eau.
Hein. Donc, autrefois, ils avançaient à 15 à l'heure, et maintenant, ils avancent à 100 à l'heure.
Voilà, exactement. Et puis, la navigation sur ce type de bateau a complètement changé. Et puis, un élément qui est très intéressant, c'est qu'on a vu dans les pré-régates que des équipages très jeunes, jeunes très vifs, très rapides, avaient toutes leurs chances face, comme vous dites, aux vieux briscards. Ouais. Donc, je pense que l'atout jeunesse qu'a mis le team Alinghi, qu'a choisi le team Alinghi délibérément, est certainement bien fondé.
Il y a eu un événement à Barcelone cette semaine, on l'a vu dans la presse. Alors, on précise quand même, Bertrand Cardis, que vous n'êtes plus dans l'équipe. Hein. Vous avez participé à la construction des bateaux victorieux. Ouais. Aujourd'hui, vous m'avez dit que vous êtes retraité.
Oui, je suis un retraité observateur.
Observateur exceptionnel du monde de la voile de haut niveau quand même. Donc, cette semaine à Barcelone, Alinghi a baptisé le bateau qui a été construit ici, tout près de Lausanne, et qui va donc essayer de gagner. Deux mots peut-être sur ce bateau qu'on a vu en photo un petit peu sous toutes les coutures. Alors bon, ces bateaux contiennent plein de secrets, mais il y a quand même des choses qu'on a vues, qu'on ne pouvait pas cacher. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce bateau ? C'est un bateau révolutionnaire, il y a des trouvailles ?
Je pense que, comme toujours dans l'America's Cup, c'est une somme de détails qui fait une différence. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'aller à Barcelone il y a 15 jours, le week-end de Pâques.
Donc, vous avez vu le bateau ?
J'ai vu le bateau, j'étais dans vraiment le voir de près. Et puis, je pense qu'il y a une somme de petits détails qui ont été pensés, réfléchis. On sent qu'il y a un aboutissement, on sent qu'il y a une certaine maturité, même une grande maturité par rapport à l'observation des autres et essayer de gagner dans chaque détail de conception et de construction. Et puis, ça se ressent quand on voit le bateau de près. Si vous voyez une photo comme ça, ben, il ressemble aux autres. Maintenant, les autres ont certainement fait la même démarche. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'America's Cup, c'est des teams de designers et de constructeurs et de navigateurs de plus de 100 personnes. Hein. Donc, c'est des énormes teams. Mais par contre... Dans le team Alinghi Red Bull, puisque c'est maintenant le partenariat qu'ils ont fait, ils ont pu bénéficier de l'expérience du team de Formule 1. Et puis on sent la patte un petit peu de l'aérodynamisme, puisque pour maintenant c'est vraiment une question d'aérodynamisme, c'est-à-dire que pour qu'un bateau aille vite, ben il faut diminuer ses freins. Ouais. C'est comme une voiture, en fait. Puis là, les vitesses où ils vont, ça devient très important. Et puis, on sent la patte au niveau aérodynamique de l'équipe de Formule 1 dans ce bateau. Ce qui est une première.
Ouais, un bateau comme Alinghi, donc, est-ce que c'est de l'artisanat de pointe, de la haute technologie? C'est peut-être de l'art aussi, un petit peu.
C'est un mélange de tout ça, vous avez parfaitement raison. C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange d'abord de rigueur scientifique, puisque tous les bateaux ont un point commun, c'est que ils doivent se conformer aux lois de la physique, hein. Donc de l'aérodynamique, de l'hydrodynamique. La complexité d'un bateau bateau, c'est qu'il évolue, surtout maintenant ces bateaux-là, c'est qu'il évolue dans deux milieux. Il évolue dans de l'eau et dans de l'air. Donc la partie aéro va se rapprocher des technologies de l'aviation, et puis la partie hydro, c'est-à-dire la partie qui est dans l'eau, qui devient de plus en plus petite, puisque maintenant c'est uniquement les ailes qui portent le bateau, va obéir aux lois de l'hydrodynamique. Et puis il faut combiner ces deux milieux, et puis c'est ça la complexité de la construction.
Est-ce que les ordinateurs aujourd'hui très puissants peuvent modéliser tout ça, ou il y a encore une part d'intuition?
Ah non, je pense qu'il y a de l'intuition à la base, parce qu'on part d'une feuille blanche, et puis on part d'une feuille blanche, on observe, et puis après on construit une base, mais ensuite après tout est modélisé, bien sûr. Et puis même le comportement du bateau est modélisé. Toutes les équipes ont des simulateurs pour permettre aux équipiers de s'entraîner à utiliser le bateau. C'est d'une complexité folle à utiliser un bateau comme ça. Il y a un nombre de manœuvres, il y a un nombre d'actions à faire quand il y a un changement de direction qui est juste dingue dans un temps très 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 court. Donc maintenant, en fait, les navigateurs, on pourrait dire qu'ils doivent avoir à la fois des compétences de navigation, mais c'est une génération issue des jeux vidéo, des jeunes qui sont capables d'avoir une manette puis réagir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé les jeux vidéo.
Pas très bon.
Moi, je suis game over au bout de 3 secondes.
Par contre, j'ai vu les images de ces bateaux. Effectivement, on voit que le flight controller, celui qui contrôle le vol du bateau, il a une manette en main.
Absolument, il a une manette en main. Et puis, en fait, tout est piloté par l'hydraulique. Les volets des feuilles, l'orientation des voiles dans le vent, etc. Donc, en fait, cette capacité d'analyser tous ces critères en très très peu de temps et prendre des décisions instantanées qui est très importante, ce qui est propre à cette génération qui est avide de jeux vidéo, quoi.
Et on espère que nos jeunes Suisses, donc avides de jeux vidéo, probablement y parviennent. Donc on rappelle que la Coupe de l'Amérique, c'est cet automne. Ils affronteront les Italiens, les Français, les Anglais, les Américains, j'en ai oublié.
Le Defender
néo-zélandais qui détient le trophée depuis 2017. 7h42 sur la première. Nous sommes avec Bertrand Cardis, pendant 40 ans patron de l'entreprise Décision. Bertrand Cardis est l'homme qui a construit les bateaux d'Alinghi, on vient d'en parler, mais aussi l'avion solaire de Bertrand Piccard est plein d'objets audacieux et étonnants, flottants, volants, on va en parler. Alors Bertrand Cardis, on vous retrouve dans un instant, mais on prend quand même une minute pour entendre quelqu'un qui vous connaît bien et qui nous parle de vous.
Réellement, d'abord, c'est sa passion, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment, qui croit à ses projets, qui n'a pas peur du risque. C'est quelqu'un qui est humainement très attachant. Mais en même temps, avec une intelligence remarquable, il a ce côté, il a fait l'école polytechnique, il a fait les PFL en mécanique, mais il le montre pas. Mais d'une fois que vous le discutez, vous vous rendez compte que c'est aussi un ingénieur de haut niveau. Mais quand on a l'impression de discuter avec un copain, et je le voyais aussi dans son chantier, il avait une sorte de respect naturel parce qu'il est humainement très ouvert. Mais en même temps, c'est quelqu'un, il faut pas sous-estimer sa brillance. Et puis derrière, c'est quelqu'un qui fait. C'est pas seulement des idées, mais il fallait voir dans le chantier. Dans le chantier, il est là, présent. Donc il est concepteur, mais en même temps, il est réalisateur. Et puis il relève ses manches d'une certaine manière. Donc c'est ça que j'aime. C'est pas juste un ingénieur théorique. C'est quelqu'un qui est capable d'aller de l'alpha à l'oméga.
Ne pas sous-estimer votre brillance, Bertrand Cardis. Cette voix, c'était donc Patrick Ebischer, ancien directeur, aujourd'hui président émérite de l'EPFL, vous amenez pas mal de projets avec Patrick Ebischer. Bon, c'est flatteur, bien sûr, on sent bien qu'il vous aime beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord quand même avec ce rapide portrait, un mélange de théorie et de pratique, ingénieur EPFL, oui, mais aussi les mains dans le cambouis?
Ouais, moi je crois que ça correspond assez bien, parce que j'ai besoin de sentir ce qui se passe dans l'atelier, j'ai besoin de sentir les solutions, et puis de partager avec mes collaborateurs. J'ai eu la chance d'avoir une équipe super qui s'est construite petit à petit depuis les années depuis qu'on a commencé Décision et ça. Principalement depuis la Renaissance de 84, en fait. Ça commence à durer 40 ans.
Alors, on va y venir parce qu'on voulait faire un petit saut en arrière quand même. Ouais. On va rappeler deux, trois petites choses dont tout le monde ne se souvient pas forcément. Vous êtes né à Morges en 1956.
Non, à Saint-Lô.
À Saint-Loup, donc c'est pas près. La maternité de Saint-Loup, c'est...
Exactement. Ouais.
D'un côté, l'école, puis les études, les PFL, la mécanique. De l'autre côté, une carrière sportive de haut niveau. Vous êtes allé aux Jeux Olympiques avec votre frère Philippe. Il y a aussi eu la course autour du monde avec Pierre Feldman en 1981-82. Alors ça, c'est aussi un des grands moments de la voile suisse, un des moments fondateurs. Si on fait l'arbre généalogique un petit peu des marins suisses qui ont du succès aujourd'hui sur toutes les mers du globe, et il y en a beaucoup, ça remonte aussi beaucoup à ces tours du monde, à Pierre Feldman, à il y a 30-40 ans, et vous en étiez.
Ben absolument, je pense que Pierre est le précurseur de la voile moderne en Suisse. C'est par les projets qu'il a montés, il a commencé par faire la Transat en solitaire, et puis après il a monté les projets de course autour du monde, et puis j'ai participé à la deuxième sur Disque d'Or 3. Et puis on a toute une génération de navigateurs qui ont été formés dans le cadre de ces courses. Et puis pour nous, c'était une chance immense d'être, le momentum d'être là juste à ce moment-là. Et puis aussi l'idée que Pierre avait il fallait prendre des jeunes issus du monde du dériveur pour naviguer sur ces bateaux. Je veux dire, avant de faire la course autour du monde, j'avais jamais passé une nuit en mer. Mm-hmm. Et puis tout d'un coup, on se retrouve et puis on en a fait presque 140, quoi.
C'était une époque dingue. Il faut peut-être se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS. On partait vraiment à l'aventure. On utilisait le sextant, comme le capitaine Haddock. Ouais, ouais. C'était vraiment l'aventure.
C'était le début. On utilisait le sextant et c'est le début du sat-nav.
Sat-nav,
c'était ce qui a précédé le GPS, déjà une position par satellite, mais qui marchait assez mal et puis qui tombait en panne régulièrement.
Il fallait pas louper le satellite, hein. Voilà. Des fois il était derrière les nuages,
c'est ça. On se retrouvait effectivement avec le sextant, puis surtout le problème qu'on avait, c'était la fiabilité au niveau de l'énergie à bord. Je veux dire, nous, je crois que sur Disque d'Or 3, sur 4 étapes, on en a fini 2 aux bougies, quoi, parce qu'il y avait plus d'électricité à bord. Et puis si on voulait, on allumait des bougies à l'intérieur pour avoir un peu de lumière, quoi. Donc, non, c'est vrai que c'était... j'ai eu la chance de faire ça. Puis à côté de ça, il y a le côté aventure et puis danger qui était relativement présent, parce qu'il y a quand même plusieurs morts dans cette course. Mmh. On savait que si on passait à l'eau, dans certaines conditions, le skipper nous disait si vous passez à l'eau, on ne vient pas vous chercher, parce qu'on ne prise pas la vie des 9 autres, des 8 autres pour venir vous chercher. Donc non, pour moi, c'était une expérience extrêmement forte. Et puis... disons, c'est à l'issue de cette course autour du monde sur Disque d'Or 3 que Pierre m'a proposé de fonder Décision S1 pour construire
le chantier naval.
Le chantier naval, exactement. Et puis, en fait, ça a complètement changé mon destin, quoi.
Oui, parce que c'est intéressant. Au fond, la course la plus fameuse que Pierre Feldman gagne, c'est la suivante, celle à laquelle vous ne participez pas, mais... 1985-1986, UBS Switzerland, c'est la troisième tentative. Alors, vous n'êtes plus à bord, mais par contre, vous construisez le bateau. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous changez d'idée?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, après le Tour du Monde, bon, il faut savoir que quand même, c'est Tour du Monde, c'était pas une partie de plaisir, hein. C'était vraiment dur, quoi. Mmh. C'était vraiment dur. Et puis moi, j'ai fait ce tour. Et puis en arrivant, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai deux choix, quoi. Soit je passe mon sac d'un bateau à l'autre, puis je continue à naviguer, comme certains de mes coéquipiers à l'époque, comme Gérald Rolivu ou bien Dominique Vavre. Mmh. Moi j'ai fait les PFL, puis en fait je me suis dit, je veux quand même essayer de sortir, je veux pas toute ma vie poser mon sac d'un bateau à l'autre. Et donc j'étais une année assistant à les PFL, puis là c'est là que Pierre m'a dit, mais écoute, on devrait construire un maxi un bateau de 26 mètres. Et puis on devrait créer une entreprise pour le faire, parce qu'il y a personne qui sait le faire, et puis on va se débrouiller, quoi. C'est un peu parti comme ça, Décision S1.
J'ai regardé un petit peu les interviews que vous avez données au fil du temps, puis je suis tombé sur cette phrase construire des bateaux, c'est un rêve de gamin. C'est vrai que vous avez toujours rêvé de faire ça?
Ah, moi j'ai toujours rêvé de faire ça quand j'avais 13-14 ans, avec un ami de la famille, on avait construit deux Optimis pour mes sœurs.
Donc c'était des bateaux pour les enfants.
C'est ces petits bateaux pour les enfants en bois. Et puis ensuite, après, je travaillais tous les étés au chantier naval Aigler, au Porte-Puyé, puis là, j'ai construit quelques bateaux chez eux, mais j'étais une petite main, quoi. Hein. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un rêve d'enfant. Et puis j'ai eu la chance de l'accomplir au-delà de ce que j'imaginais dans mes rêves les plus fous.
Ouais. Bon, petite main, vous êtes modeste. Vous avez quand même eu pas mal de talent ou pas mal de réussite, parce que vraiment, le début des années 80, c'est le début de ces matériaux composites qu'on maîtrise assez bien aujourd'hui. Hein. Le carbone, le Nomex, le Kevlar, tous ces matériaux extrêmement résistants, extrêmement légers. Mais si on se souvient un peu des courses autour du monde, notamment celle d'UBS, moi j'ai des souvenirs d'enfance, il y a beaucoup de bateaux qui avaient des problèmes. Eric Tabarly, son bateau, il se transforme en chewing-gum autour du monde, il prend de l'eau, il doit s'arrêter. Il y a un bateau néo-zélandais de Peter Blake, alors lui, il construit un char d'assaut pour pas que ça lui arrive, mais évidemment, il est beaucoup trop lourd, il n'avance pas. Vous avez tout de suite trouvé le truc.
Écoutez, l'important justement, c'est de savoir jusqu'où pas aller trop loin dans la technologie pour faire un bateau performant. Parce que si vous prenez tous les coefficients de sécurité pour vous assurer, ben vous êtes sûr de pas casser, vous êtes sûr de pas gagner. Mm-hmm. Donc, mais disons-nous, moi l'attitude qu'on a toujours eue, fait que moi j'ai toujours eu depuis les PFL, c'était un peu une attitude liée au doute, c'est-à-dire se poser toujours les questions. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas. Analyser ça, hein, et puis ensuite après dire bon. Ben, ce que je sais, ce que je maîtrise, c'est bon. Puis ce que je maîtrise pas, où est-ce que je peux trouver l'info, ou la personne, ou la techno qui permettra d'effacer ce doute. Et puis, c'est vrai que là, à l'époque, avec UBS Switzerland, on a eu l'appui des départements R&D, de Siba Geigy à l'époque.
R&D, c'est quoi?
Recherche et développement. Okay. Ouais. Donc, si vous voulez bien, l'idée qu'on avait chez Decision, c'est que on est une petite entreprise, une PME suisse. On n'a pas des moyens pour faire de la recherche dans ces domaines-là. Par contre, on s'oblige à être en contact avec ces fameux départements recherche et développement pour être les premiers à utiliser leurs innovations, voire être des bêta-testeurs, c'est-à-dire des gens qui vont prendre la techno qui est développée puis être les premiers à la mettre en œuvre. Et puis à côté de ça, ben pour UBS Switzerland, ben on s'est adjoint les compétences d'un ingénieur australien qui avait fait du composite déjà. Et puis en fait, on a travaillé avec un chantier naval d'Yverdon. Bref, on s'est mis tout un tas de monde autour de nous pour nous aider et puis pour compléter le puzzle du savoir-faire pour la construction.
7h51, bientôt 52. Sur la première, on est toujours avec Bertrand Cardis, ancien patron du chantier Décision, l'homme qui a fait gagner Pierre Feldman et Alain Guy. Bon, on va arrêter de parler de voile peut-être quelques instants, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi dans votre vie. Vous avez construit une grande partie de Solar Impulse, l'avion à propulsion solaire de Bertrand Picard. Un avion solaire, un voilier de pointe, c'est un peu les mêmes enjeux, les mêmes trucs, les mêmes pistes de réflexion?
C'est-à-dire qu'à la fin, il faut sortir des sentiers battus, chercher de la performance. Et puis, dans le cadre de l'avion solaire, eh ben, on est rentré dans le jeu au niveau de l'étude de faisabilité à l'EPFL. Et puis, on a proposé des technologies de construction de l'avion qui permettaient de gagner beaucoup de poids. Il faut se rendre compte qu'on devait construire un avion qui, proportionnellement, devait être beaucoup plus léger qu'un planeur. Donc, et puis là, moi, on a beaucoup collaboré surtout avec André Borschberg, le deuxième pilote de Solar Impulse, et puis qui est ingénieur aussi, puis que moi, je connaissais aussi depuis des années. Et puis, en fait, en proposant ces technologies, on a fait un élément test, puis on a dit, ben maintenant, cet élément test, on va le casser, puis voir jusqu'où il passe. Parce que c'est complètement innovant comme méthode de construction. Puis en fait, ça a passé. Et puis ensuite, après, ben, du coup, on a pu faire le premier avion Solar Impulse. Mais on a fait, si vous voulez bien, tout ce qui est le squelette de l'avion. C'est toute la structure. Hein. Puis après, on livrait à Dubendorf, au centre de Solar Impulse, pour construire l'équiper des cellules solaires, l'électronique, des moteurs et tout ça.
Des projets très prestigieux, les projets de la voile, les projets de l'aviation, les records, l'exposition médiatique. Il y a aussi eu des projets alors plus modestes, plus proches de notre vie quotidienne. On les trouve d'ailleurs sur le site de Décision, on voit la chronologie de tous vos projets. Il y en a un qui m'a frappé, c'est les perches de trolleybus lausannois. C'est vous aussi qui les avez construits, ces perches de tous les trolleybus.
Ouais, bah écoutez, une fois, j'étais arrêté à... Bon, c'est anecdotique, hein, mais j'étais arrêté à Georgette... Et puis
à Lausanne.
Ouais, à Lausanne. Et puis je vois un trolleybus qui dont la perche sort du câble et puis des étincelles, etc. Et puis je me suis dit il faudrait quand même proposer des perches un peu plus isolantes. Et puis en fait, d'une idée très simple de deux tubes, un tube en composite et un tube en aluminium, ben on a dit le tube composite il est structurel et isolant, puis l'aluminium il est structurel et conducteur. Et puis on a enfilé les deux tubes l'un dans l'autre. Et puis on a fait un millier de perches comme ça. Ouais.
Quand on disait qu'on était entre la science et peut-être un peu l'artisanat, voire le bricolage avec vous, Bertrand Cardis. Bon, est-ce qu'avec le recul, vous êtes retraité aujourd'hui, même si vous faites encore plein de trucs, est-ce qu'il y a une idée, un projet dont vous êtes particulièrement fier, là j'ai été bon?
Ouais, écoutez, on a fait plein de projets absolument géniaux. Puis on a fait des projets donc par exemple un bateau comme qu'on a construit pour le sauvetage d'Ouchy, que je vois régulièrement passer devant Ouchy, l'étoile du Léman. Pour moi, c'est un bateau que j'aime beaucoup parce que il est résultat d'un concours. On a gagné ce concours pour construire ce bateau. Et puis, résultat d'une concertation avec toute l'équipe de construction au chantier. À l'époque, on était une dizaine, donc, décision. Et ça, on a été jusqu'à 50 dans la boîte. Mais là, on était une dizaine. Et puis, on a réfléchi comment doit être le bateau, comment on aimerait que le bateau soit qui vient nous chercher. Puis, avec l'architecte Sébastien Schmitt, pour finir, on a fait proposer ce bateau qui a une allure très, très différente des bateaux de sauvetage habituels, mais qui est très convivial pour accueillir des gens à bord, qui est très convivial pour ramasser des gens qui sont dans l'eau. Et puis, ce bateau
navigue encore.
Il navigue encore. Il était construit en 95 ou 96 par là. Et puis, il me fait toujours plaisir, ce bateau, quoi.
En quelques mots, parce que le temps passe, est-ce qu'il y a un regret, peut-être, un projet où vous êtes dit, celui-là, il est bon et malheureusement, il ne s'est jamais fait?
Disons, il y a un projet que j'avais, dans lequel j'avais participé, c'était la Serpentine, un véhicule électrique automatique. C'était dans les années, ça, qu'on a commencé à réfléchir à ça, l'année 1983, donc. Hein. Et puis après, on a pu réaliser le concept, c'était que la rue donne de l'énergie et de l'information. Et puis, c'était des petites capsules que vous pouviez...
Assez novateur, au fond.
Oui, c'était des capsules sans pilote, mais qui roulaient à 17-18 km/h. Pour un peu l'idée, c'était qu'on aurait des centres-villes sans véhicule, sans voiture, et puis qui soient irrigués par des capsules qui soient automatiques. Et puis, vous arrivez avec votre téléphone portable dedans, puis vous mettez un SMS sur la destination, puisqu'à l'époque, il y avait que ça. Hein. Et puis, ensuite, ça vous amenait. Puis, on a pu construire... puis, qui était alimenté par magnétoglisseur. Donc, c'est par des bobines, par induction. Et puis, bref, on a pu...
Et ça, c'est parfait,
malheureusement. On a fait un proto, mais on était clairement beaucoup trop tôt, quoi.
Ouais. Il nous reste quelques instants, Bertrand Cardis. Je vous propose d'écouter rapidement une deuxième fois Patrick Ebichère, donc président émérite aujourd'hui de l'EPFL.
Et là, quand on a gagné la Coupe d'Amérique, quand Alinghi l'a gagné, quand Solar Impulse a fait le tour, alors c'est tous les autres qui ont fait, c'est des centaines, mais vous vous souvenez de ces jours où ces projets ont été conçus, on était juste quelques-uns autour d'une table à prendre cette décision, sans avoir tout en main. Mais c'est ça, et c'est là où Bertrand est fantastique, parce qu'il va pas vous dire où je sais pas et tout. Il dit les cons, on y va. Donc si vous voulez, et ça c'est fantastique d'avoir un sparring partner qui ose. Et c'est vraiment une des grandes qualités, en plus de tous ces compétences, c'est quelqu'un qui ose, d'accord. Et c'est pour ça probablement qu'on s'entend si bien.
Bertrand Cardis, l'homme qui ose, constructeur de bateaux et d'engins volants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, c'était super.
Un plaisir.
Et puis on le rappelle, la Coupe de l'Amérique à partir du mois d'août, finale en octobre à Barcelone. La Nouvelle-Zélande détient la Coupe depuis 2017. La Suisse est candidate pour lui succéder. Vous allez quand même aller jeter un coup d'œil à ces régates, Bertrand Cardis?
Écoutez, sûrement oui, mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant dans la nouvelle formule de l'America's Cup, les retransmissions TV, ça sera probablement avec ces bateaux qui vont si vite, on voit beaucoup mieux sur la TV avec l'assistance sur l'écran de ligne virtuelle de direction du vent. Donc oui, je vais certainement faire un saut là-bas.
On vous souhaite un très bon été puis un très bon automne à Barcelone. Nous, il est 7h59, on va sur la route.